J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le député Jackson Ahoussé affirme qu'en 6 mois, dans la province de l'Ituri, plus de 1800 personnes ont été tuées, soit 1 600 000 personnes ont été déplacées. 300 écoles détruites et l'eau de la régie des eaux a été coupée à la suite de l'activisme de groupes armés en Ituri depuis 6 mois. Pour faire face à cette situation sécuritaire et humanitaire, il invite le chef de l'État à proclamer l'état d'urgence sécuritaire dans cette province, ainsi que dans le Nord Kivu. Selon vous, que faudra-t-il faire pour mettre fin d'une manière efficace à l'insécurité dans ces deux provinces? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine réalisé, mis en onde par Jacques Bosenga. Pierrot et Lamengi, c'est pour moi un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315, ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Merci d'être avec nous sur les antennes de la fréquence de la paix. Nous recevons dans ce studio Monsieur Jackson Ahoussé, député national et élu du Rumu dans la province d'Ituri. Honorable député, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous demandez qu'on puisse en situer l'état d'urgence sécuritaire et humanitaire dans ces deux provinces. Mais revenons d'abord dans le fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie du pays?
Ce qui se passe dans cette partie du pays est très grave. Je dirais même très très grave parce que il ne passe pas un seul jour sans qu'il y ait une personne tuée dans la province de l'Ituri. Mm-hmm. Et c'est là comme ça dans tous les 5 territoires, n'est-ce pas, qui composent cette nouvelle province. Mm-hmm. Parce que l'Ituri n'est que province il y a 5 ou 6 ans passés. Mm-hmm. C'est très très grave, monsieur le journaliste, parce que c'est depuis... Je dirais, la dernière épisode a commencé depuis décembre 2017, que cette province, il y a eu des paracords pour la énième fois des crises militaires, n'est-ce pas, dans cette zone, dans cette province de l'Ituri. Et au jour d'aujourd'hui, les conséquences sont très graves. Aucun secteur de la vie n'est épargné, malheureusement, parce que quand une guerre, quand une population, quand une zone est soumise à la guerre pendant 2 ans, mm-hmm. d'une manière successive, messieurs les journalistes, malheureusement encore, pour votre information, ça n'extagne pas. Ça n'extagne pas, la situation s'empire, malheureusement. À 2017, décembre, quand le conflit a déclenché, au niveau de Djougou précisément, mm-hmm. on avait que 2 groupes armés, notamment on avait que les Codeco, n'est-ce pas, les Codeco qui terrorisaient du côté Djougou, et aussi le groupe EDF, n'est-ce pas, qui était actif dans le Nord Kivu, par le fait que ces deux provinces sont limitrophes, et du coup il y avait, n'est-ce pas, des menaces mm-hmm. dans la province de l'Ituri. Mais aujourd'hui, messieurs les journalistes, au moment où nous sommes dans votre studio ici, 2 ans après, presque, 2 ans et demi, la situation, au lieu que ça s'arrête, ou bien au lieu que ça s'améliore, ça s'est aggravé. Nous sommes passés de 2 groupes armés à plus ou moins 9 et même 10 groupes armés
en Ituri.
Ça, c'est seulement dans la province de l'Ituri, à travers les 5 territoires. Je parle de Mahagi, de Djougou, de Aru, de Mambasa et d'Irumu. Plus de 9 groupes armés qui sont actifs, s'il vous plaît. Il n'y a pas un groupe armé qui n'est pas actif. Ils sont actifs, c'est-à-dire chaque jour, ils posent des actes de nature, n'est-ce pas, à terroriser la population.
Voilà. Alors, quelles doivent, parce qu'avant qu'on trouve des solutions, il faut quand même qu'on sache quelles sont les causes d'abord de la création de ces groupes armés et au juste, c'est quoi les revendications de ces groupes armés?
Je commencerai par les revendications avant d'aller à la cause. Les revendications de ces groupes armés, est-ce qu'ils revendiquent quelque chose? Non, ils ne revendiquent pas quelque chose. Ce sont des groupes armés qui manifestent tout simplement le sabotage, n'est-ce pas, de l'État à travers, n'est-ce pas, sa population. Parce que tu sais que c'est à l'État congolais que revient la protection de sa population et de leurs biens. C'est à l'État congolais. Il n'y a pas de personne qui peut avoir cette mission-là. Et à partir du moment où le groupe de gens peuvent s'organiser quelque part pour porter atteinte à cette population et de les faire même déplacer, de les mettre dans une situation difficile, c'est un défi, tout simplement.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune revendication de ces groupes armés.
Il n'y a aucune revendication. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer à tenir les armes? Je peux dire, si le problème serait... Parce qu'on nous fait voir que ce sont des problèmes liés au conflit foncier. Si ma parcelle et votre parcelle a trait à conflit, si mon chat et votre chat, que nous sommes à conflit, si mon village et votre village, nous sommes à conflit du point de vue des limites, est-ce que cela suffit? Est-ce que cela justifie pour moi et pour vous de tenir les armes?
C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas des conflits liés à la terre.
Ce n'est pas nécessairement des conflits liés à la terre. Je vous dis que c'est le défi. C'est le défi qu'on est en train de lancer, n'est-ce pas, à l'État congolais.
Et ça, c'est par rapport aux revendications.
Ça, c'est par rapport aux revendications. Il n'y a rien. Les revendications, il n'y a rien. Donc, on parle des cahiers des charges, mais je me dis, les cahiers des charges pour réclamer les grades, pour réclamer les grades, par exemple, par rapport, parce que c'est à ça que ça finit. Tous les dialogues, depuis les années d'ailleurs, depuis les années 2001, 2002, tous les dialogues dans ces pays qu'on a organisés, qu'on a initiés avec le groupe armé, ça aboutit à quoi? Ça aboutit aux réclamations des grades, ça aboutit aux réclamations des amnisties, ça aboutit à des choses comme ça. Mais ça nous amène.
Mais alors, on a parlé tout à l'heure des revendications, vous avez dit, il y a la question des causes. Est-ce qu'on se réveille le matin, on prend des armes, on s'attaque à son village, au village voisin, et ça continue, ça prend tous les territoires, sans qu'il y ait vraiment un soubassement, une cause, quelque chose qui fait déclencher ces groupes armés?
Quelque chose qui fait déclencher ces groupes armés, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Moi je ne donne aucune raison. En Ituri, depuis les années 2000, 2001, 2002, il y avait des guerres ethniques. Les tribus se battaient en Ituri. Les gens ont été arrêtés et tout et tout. Je me posais la question, en Ituri, qu'est-ce que nous on a gagné? Quelle est la communauté qui a gagné contre l'autre? Quelle est la communauté qui est arrivée à exterminer l'autre? Donc, c'est-à-dire, on n'a rien gagné. Et aujourd'hui, est-ce que nous nous battons encore? Est-ce qu'il y a des communautés qui se battent contre notre communauté? Donc, moi, je pense qu'ici, c'est le problème de l'absence de l'autorité de l'État. Mm-hmm. Et l'absence de l'autorité de l'État laisse à ce que des personnes de mauvaise volonté. Parce que on n'est pas tous positifs sur cette terre. Il y a aussi des personnes qui sont inutilement négatives. Des personnes sans âme, qui peuvent porter en tête à la vie des autres. Mais c'est pour cela même. C'est ça même la raison, n'est-ce pas? C'est ça même la raison de la naissance de l'État. Nous ne voulons pas entrer dans la théorie pour que nous puissions expliquer la théorie de l'État. C'est ça même. Pour limiter, n'est-ce pas, le bavir. C'est ça même l'État. L'État est dans la société... a institué une organisation appelée l'État, c'est pour limiter, n'est-ce pas, les dégâts que les hommes peuvent se causer à traiter. Et si nous rentrons, si nous vivons cette histoire-là de guerre parmi les gens, où les gens se tuent, où les gens se décapitent, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque. Et cette chose qui manque...
C'est l'autorité de l'État.
Exact.
Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, il y a aussi les auditeurs qui voudraient bien intervenir dans cette émission. Il y a Benjamin qui nous appelle de Kananga, au Kasaï Central. Daniel est à Mahagi et Isidore, plus Oscar, est à Mbujimayi. Commençons d'abord par Benjamin qui nous appelle de Kananga, au Kasaï Central. Bonjour, Benjamin.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Mengi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les amis auditeurs.
Alors pour vous, quelles doivent être les mesures efficaces pour mettre fin à cette question d'insécurité dans ces deux provinces?
Oui, Monsieur, je dis, avant de pouvoir évoquer les mesures qui peuvent faire en sorte qu'il y ait la paix dans la partie du pays, je veux commencer d'abord par dire que le bilan qui est présenté par Monsieur le député n'est pas un bilan passager, mais plutôt c'est une réalité. Parce que si vous êtes attentif de ce qui se passe à l'Est, Monsieur Pierrot, il y a lieu de pleurer. Contrairement au caractère sacré de la vie, à l'est du pays, verser le sang inactuellement est devenu comme quelque chose de très grande valeur alors que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'en considération de tous ces éléments, que le député a pu faire cette proposition, se référant aux dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution qui donne au chef de l'État le pouvoir de proclamer l'état d'urgence lorsqu'il y a des situations qui mettent la nation en péril. À mon humble avis, je ne contredis pas l'invité, mais plutôt je pense que cette proposition de loi n'est pas opportune, étant donné que nous sommes à 2 mois de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Monsieur Pierrot, Vous êtes sans ignorer que l'état d'urgence lié à la COVID-19 a eu des effets très néfastes sur l'économie du pays. Alors, les programmes encore pour la situation de l'insécurité à l'Est serait pour moi une exposition du peuple à la souffrance et aux misères. Il faut penser à notre économie qui est extraverdie, Monsieur Pierrot. Et moi, je propose, pour qu'on puisse rétablir la palette du pays qui est troublé depuis l'année passée, il faut que l'armée, la société civile, les officiers, les autorités politiques administratives, les gouvernements et consorts puissent dégager un dialogue franc. Parce que partout dans le monde, Monsieur Pierrot, il faut noter que les dialogues et les problèmes se résolvent à travers les dialogues. Et enfin, il faut étudier tous les paramètres pour savoir où est-ce que ces rebelles attirent leurs forces. Aussi, dès que la chose là est tirée au clair, il faut que, comme l'a demandé le chef d'État lors de la 75e Assemblée de l'ONU, il faut que la communauté internationale puisse s'impliquer pour sanctionner tous les gens impliqués dans les massacres dans cette partie est du pays, qui sont peut-être les hommes politiques qui se cachent derrière ces actes de barbarie ignoble. Alors moi, je pense que, monsieur Pierrot, il faut qu'on puisse favoriser les dialogues, il faut que les gouvernements congolais puissent s'impliquer, parce que tout ce qui se passe, vraiment, ça laisse à désirer, ça montre combien l'autorité congolaise est absente dans cette partie du pays, mais c'est jeudi. Voilà au moins mon avis par rapport à cette thématique.
Merci beaucoup, Benjamin. Vous estimez que comme on vient de sortir de l'état d'urgence sanitaire, ajoutant encore un autre état d'urgence sécuritaire, ça va être très compliqué sur la question de l'économie, mais au moins vous estimez qu'il y a d'abord la démarche du dialogue. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir un dialogue franc, savoir exactement qui sont ces gens qui commanditent ces rebelles, ou d'où tirent-ils leur force. Et c'est autant de questions qui doivent être traitées comme ça. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir appelé de Kananga. Daniel, vous êtes à Mahagi, dans la province d'Ituri. Bonjour, Daniel.
Bonjour, la radio de la paix.
On vous écoute, Daniel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à l'insécurité dans ces provinces?
D'abord, à passage, je salue mon brave Méaou. C'est parce que la lettre ouverte qu'elle a initiée, c'est très bien. Allô?
Oui, on vous écoute, Daniel, oui.
Oui, parce que pour moi, pour qu'il y ait la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et particulièrement les touristes au nord Kivu, il faut que d'abord le gouvernement puisse prendre la cause de cette guerre. Pourquoi ces miliciens sont à brousse? Pourquoi menacer les paisibles populations? Et puis, qu'on les ramasse tous, on parle avec eux, comme ça, on trouve un point d'accord commun, comme ça, on les ramasse et puis on les ramène sur l'ordre public. Allô?
Oui, on vous écoute, Daniel. Vous avez terminé, vous estimez qu'il faut exactement quelle procédure pour arriver à ça? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Mahagi. Nous avons aussi Oscar qui nous appelle de Goma. Merci d'être avec nous sur les antennes. C'est plutôt, je crois bien, Dodé qui nous appelle de Mbujimayi. Dodé, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, et bien sûr Oscar Dodé Moulumba depuis Mbujimayi.
Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin efficacement à cette insécurité dans ces deux provinces?
Bon, selon moi, monsieur le journaliste, vous savez, avant qu'il y ait d'abord un lancement du programme de l'organisation des ministres sommets à Goma, il y avait d'abord un propos, voulais-je dire, que monsieur Paul Kagame de Rwanda avait dit à propos de ces ministres sommets. Lui avait dit l'insécurité au Congo est occasionnée surtout par les politiciens de ces mêmes pays. Par là, nous comprenons que, par rapport à ce que l'invité a dit suite à la revendication, on ne peut pas seulement parler de l'insécurité s'il n'y a pas une revendication quelconque venant des troupes armées. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de Bakataratang du côté de Lubumbashi. Ils sont là, ils veulent revendiquer, je ne sais pas, ils demandent la République katangaise, je pense. Mais ça provoque toujours des troubles auprès de la population qui souffre vraiment de temps en temps. Alors pour l'Est du pays, moi j'ai dit, les gens qui sont là-bas, qui sèment des incursions de temps à autre, sont toujours des Congolais. On ne peut pas seulement accuser les étrangers dans cette affaire de sécurité à l'Est du pays. Pourquoi j'ai dit ça? Là-bas il y a des généraux, il y a des états-majors, il y a tout, toutes les forces sont là. Il y a tout ce qu'il faut. Là. Mais je ne comprends pas comment les étrangers peuvent quitter chez eux et pénétrer. de ce côté-là. Là, je trouve qu'il y a des politiciens qui se sont impliqués dans cette affaire pour faire souffrir les paisibles citoyens. Là, je comprends que il faut même poursuivre une mémoire qui est derrière cette affaire. Là, je cite encore, les autorités locales sont impliquées, les généraux sont impliqués, les grands politiciens de ces contrées sont impliqués. C'est ça au moins ce qu'il faut. Maintenant, pour mettre à fin, pour essayer au moins de mettre à fin, on a beaucoup fait le dialogue ici au Congo, mais ça n'a pas abouti à un résultat positif, messieurs les journalistes et les chers auditeurs. Je vous informe bien, comme l'avait promis monsieur le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, il doit toujours faire de tout son mieux possible afin d'installer son état-major à l'est du pays comme il l'avait promis. Alors quand il parlait, ces gens-là étaient aussi à l'écoute. Ils avaient entendu qu'il avait promis de mettre fin là-bas pour qu'il puisse se sentir qu'il est président. Parce qu'il avait dit, je ne me sentirai pas président si la paix ne règne pas à l'est du pays. Alors il doit le faire comme il en avait promis. Il doit installer là-bas, envoyer beaucoup d'unités, de forces, afin que cette situation puisse se calmer. Sinon la voie de dialogue ne va pas toujours nous donner bonne solution.
Merci beaucoup Oscar Dodé. Vous demandez au chef de l'État de réaliser sa promesse de campagne d'installer son état-major à l'Est comme c'était promis. Il y a autant de pistes et de solutions. Quelle est notre responsabilité dans cette question de l'insécurité? Nous revenons dans ce studio avec vous, Monsieur Jackson Aoussé, député national élu d'Irumou. Alors, on a parlé des causes, on a suivi ce que les auditeurs proposent. Revenons maintenant à ce que vous sollicitez dans votre lettre écrite au chef de l'État. Quelles sont les grandes lignes de votre revendication dans cette lettre?
Ma lettre, comme je l'avais dit, faisait, n'est-ce pas, le résumé des cris d'alarme d'une population sinistrée. La population de l'Ituri, mes chers amis, nous devons rendre nationale, n'est-ce pas, la souffrance de cette population aujourd'hui en Ituri. Vous savez qu'en Ituri, aujourd'hui, messieurs les journalistes et aussi aux auditeurs, qui nous sont en train de nous suivre à ce moment, les gens ne vont pas au champ. Mm-hmm. Parce que nous pouvons tout simplement parler des nombres de déplacés, qu'il y a 1 600 000 personnes qui se déplacent, mais même ceux qui sont restés au village ne peuvent pas aller au champ, ne peuvent pas aller puiser de l'eau à la source, parce qu'une fois vous osez aller au champ, il y a tous les risques que vous ne puissiez pas rentrer, n'est-ce pas, à la maison. Le problème étant celui-là, le problème étant grave. Nous avons un grand pays. Et avoir un grand pays n'est pas une malédiction. Avoir un grand pays, c'est aussi une bénédiction. Nous devons positiver le fait que notre pays soit grand. J'ai écrit cette lettre par le fait du constat amer. Mm-hmm. Hein, du constat très très amer. Et les gens meurent sur la route. Vous ne pouvez pas quitter Bounia. Vous ne pouvez pas quitter Bounia pour aller à Djalassiga. Vous ne pouvez pas quitter Bounia pour aller à Mambasa. Vous ne pouvez pas quitter Bounia pour... Donc les gens qui sont à Bounia sont en train de vivre dans une situation d'une prison à ciel ouvert. Vous étiez même informé que le groupe armé les éléments du groupe armé ont accédé même à la ville de Bounia.
Oui.
Bon, s'ils sont arrivés à accéder à la ville de Bounia, posez-vous la question, quel est le sort du village? Quel est le sort du groupement? C'est-à-dire qu'ils ont déjà envahi partout là, mm-hmm. Il ne leur restait que la ville de Bounia. C'est pour cette raison qu'ils sont arrivés là. J'ai toujours dit, la paix n'a pas de prix, messieurs les journalistes. J'ai aimé Benjamin qui a dit, l'état d'urgence, on venait de sortir d'un état d'urgence,
ouais.
Ce ne serait pas encore emporté qu'on puisse aller à un autre état d'urgence. Monsieur Benjamin, tu as raison. Parce que l'état d'urgence n'est pas sa conséquence. Mais hélas, pourquoi on a convoqué l'état d'urgence? Pourquoi on avait déclaré l'état d'urgence sanitaire? La raison était laquelle? La raison était que le pays était menacé. La vie des citoyens était en danger. Mais c'est presque la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, les bilans, allons sur les bilans. Les bilans des morts dus au coronavirus dans notre pays, mm-hmm. Comparaison avec les bilans des morts dus à l'insécurité à l'Est. On ne peut pas comparer cette réalité. C'est ça, effectivement, mm-hmm. la problématique. D'ailleurs, le coronavirus ne tue pas chaque jour chez nous, mais par le fait de l'insécurité, les gens meurent chaque jour. Moi, je voulais que l'État puisse inscrire à l'ordre prioritaire, n'est-ce pas, la question de l'Est. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait ça, je vous assure, les ennemis vont continuer à trouver les couloirs pour, n'est-ce pas, raison que j'ai mis la barre très haut,
okay.
À demander la déclaration d'une seconde étant dirigeance sécuritaire. Vraiment, ça vaut la
peine.
Pour
les deux provinces.
Pour les deux
provinces. Alors, comment on va gérer cette période? Ça veut dire on doit restreindre le mouvement des gens. On doit faire exactement pour arriver vraiment à rendre efficace si jamais cette mesure pouvait être acceptée.
On doit restreindre effectivement les mouvements des gens. On doit concentrer les moyens militaires nécessaires. N'est-ce pas? C'est ça aussi l'état d'urgence. Mm-hmm. Donc, parce que là, ça donne au chef de l'État la capacité d'agir directement. Parce que c'est ça aussi la situation aujourd'hui. Nous sommes à l'Ituri, il y a une zone, il y a un secteur opérationnel. Il y a des militaires qui sont en front à l'Ituri. Il y a deux zones opérationnelles au Nord Kivu. Je parle de Sokola 1 et Sokola 2, mm-hmm. c'est au Nord Kivu. Donc, c'est-à-dire la zone insécurisée est sous les opérations militaires. Mais dites-moi un peu, depuis que ces opérations ont été déclenchées, quel est le résultat aujourd'hui? Nous sommes reconnaissants, nous encourageons nos militaires qui sont sur terrain, nous encourageons nos militaires parce qu'ils font des travaux énormes, mm-hmm. ils sont sur terrain. Mais est-ce que franchement, les moyens accompagnent ces opérations? C'est aussi ça la question. Parce que pour votre information, dans la province de l'Ituri, il n'y a pas de route. Comment voulez-vous qu'une opération militaire puisse se mener à mieux dans une zone qui n'a pas de route? Ils vont se déplacer à quoi? Est-ce qu'on peut faire 50 km, 30 km à pied? Ça posera problème. C'est pour cette raison que si on arrivait à accepter, si on arrivait à accéder à cette date, d'ailleurs, ma demande n'est pas que la convocation d'un état d'urgence. J'ai aussi demandé qu'il y ait la convocation d'une table ronde. Parce que mon ami Benjamin a parlé sur le dialogue. Effectivement, ces approches, ces questions, ces méthodes ne sont pas incompatibles. On peut mettre tous les moyens. J'ai le dialogue, je l'ai recommandé, qui est un dialogue qui va réunir toutes les communautés de la province de l'Ituri, qu'on puisse procéder à un dialogue provincial pour qu'on puisse arriver à analyser les aspects communautaires, parce que je ne me dis pas que nos communautés ne sont pas aussi partie prenante dans les conflits, parce que d'une manière ou d'une autre, ces groupes armés locaux sont alimentés, sont composés par les fils et les filles de la province.
Exact.
C'est-à-dire, le dialogue entre les Ituriens reste aussi quelque chose de très important pour que nous puissions.
Mais je me rappelle une fois, le ministre de la Défense était invité au Parlement pour parler de cette question de l'insécurité. Il avait insisté dans son speech devant les députés nationaux, plusieurs fois, il avait insisté sur la collaboration honnête et sincère. Il a répété ces mots plusieurs fois quand il s'adressait aux députés nationaux pour dire: pour lutter contre l'insécurité à l'Est, je vous demande et j'insiste la collaboration honnête et sincère. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Est-ce que cela veut dire que, comme le disait tout à l'heure notre ami Dodé de Mbujimaï, que nous-mêmes, nous sommes quelque part responsables de ce qui arrive dans la question de l'insécurité? Quand le ministre de la Défense parle ainsi aux politiciens, aux députés qui sont des politiciens, est-ce qu'il veut dire qu'il y a des ramifications avec certaines personnes qui couvriraient les groupes armés, entre guillemets?
Et je dirais, si ces personnes s'avéraient que ces personnes existaient, ces personnes doivent être, ils sont plus forts que l'État. C'est là où je me dis que l'État ne doit pas se laisser faire. Si ces personnes-là existent, ils peuvent exister, ce n'est pas un problème. Mais l'État aussi doit exister et les forces doivent s'en frotter sur le terrain. C'est pour cette raison que moi, je ne m'attarde pas sur ce débat de tireur de ficelle. Ce tireur de ficelle existera toujours. Ils vont exister et leur existence n'est pas par rapport à notre volonté, nous, l'État. L'État doit agir. L'État doit agir. Bien fermé, avec tout professionnalisme, avec toute efficacité, pour reculer et ceux qui sont sur terrain de manière directe.
Merci.
Et ceux qui peuvent être identifiés comme.
Voilà, je rappelle à nos auditeurs que la question de l'insécurité dans la province de l'Ituri et au Nord Kivu, au centre de cet échange avec les députés nationaux Jackson Aoussé, élu d'Irumu dans l'Ituri, lui qui a adressé au chef de l'État une lettre ouverte où il sollicite l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire et humanitaire dans ces deux provinces pour arriver à résoudre cette question d'insécurité. Nous allons retourner de l'autre côté du studio pour écouter encore un groupe d'auditeurs et nous allons continuer dans cette émission.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je le disais, nous poursuivons parole aux auditeurs sur cette question d'insécurité dans la province du Nord Kivu, mais des l'Ituri, avec la lettre du député national Jackson Aoussé adressée au chef de l'État. Nous retournons au standard en ligne. Nous avons Edel Martin Kabutakapa. Vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierre El Menji, bonjour à Radio Kati et à tous les auditeurs de notre chaîne.
Alors, vous êtes le coordonnateur du réseau Jeunes dans le monde pour la paix. Alors, vous militez pour le dialogue. Nous faisons le débat autour de l'insécurité dans ces deux provinces. Pour vous, quelle devrait être aujourd'hui une démarche efficace pour arriver à résoudre la question de l'insécurité dans ces deux provinces?
Merci beaucoup, Pierre El Menji, pour cette question très cruciale, la question de l'insécurité à l'est de notre pays. Ce qu'il faut faire, d'abord, je vous dis, il faut procéder à l'analyse. Pourquoi il y a l'insécurité? Qu'est-ce que les rebelles réclament? Qu'est-ce qui est à la base réellement de l'insécurité au niveau de l'Est du pays? Et engager le dialogue, et en engageant le dialogue, en écoutant les uns et les autres, je pense qu'on peut trouver une voie et les voies durables pour une paix durable au niveau de l'Est. Mais aussi, il faut savoir négocier, mais négocier avec les véritables rebelles ou ceux qui sont en train de tirer les ficelles. Parce qu'on risque de présenter des gens qui ne sont que des boucs émissaires. Et lorsque vous traitez avec les boucs émissaires, et quand ils vont rentrer, les vrais tireurs de ficelles vont dire non, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire cela. Ils vont continuer et le jeu va continuer. Donc cette question de l'Est, quand on l'étudie, il faut vraiment voir et au niveau interne et au niveau externe. Donc au niveau national, mais aussi au niveau international. Qui sont les vrais opposants? Qui sont les vrais rebelles? Qui sont les vrais tireurs de ficelles? Et en analysant la question, je pense qu'il faudra résoudre aussi la question du bien-être social, donc de la population. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, ce sont les jeunes qui sont utilisés. Et pourquoi ils sont utilisés? Parce qu'ils sont sous-employés. Et donc, ils les répondent donc aux appels faciles, aux dons faciles, et ainsi on en. Mais aussi, la question de l'Est, il faut voir les différentes communautés de l'Est. Est-ce que ces communautés vivent en paix entre elles? Si peut-être on privilège, il n'y a pas la justice équitable entre ces différentes communauté, je pense qu'on aura toujours ce jeu de ping-pong, ce jeu, on va tourner en cercle, donc le cercle vicieux. Et il faut signaler enfin, Monsieur Pierrot et le Menji, vous voyez que la question de l'insécurité de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Mobutu, vous savez que cette question est toujours récurrente jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut procéder à une analyse profonde de cause de cette insécurité au niveau de l'Est.
Alors, mais quand vous évoquez la question de dialogue, rappelons quand même que la RDC, le dialogue, on peut toujours continuer à dialoguer, mais il y a eu quand même de dialogue, les initiatives de dialogue à Ituri une fois, il y a eu aujourd'hui même des procès au niveau de la CPI, il y a eu plusieurs fois de discussions communautaires dans le Nord et Sud Kivu. La plupart des dialogues, des discussions finissent toujours par la gratification, les amnisties, mais ça ne résout pas le problème. Est-ce que le dialogue ne peut pas être aussi avec les amnisties ainsi que la gratification ne peut pas être aussi un soubassement qui pousse les autres à dire on va prendre les armes, demain nous allons dialoguer, on va aussi nous donner des grades et puis enfin nous serons intégrés dans les institutions et puis il y aura une loi d'amnistie. On revient toujours à la même chose.
Mais je pense que c'est là aussi le problème. Vous avez touché à un problème principal, capital, dans le sens de ce que nous appelons le dilemme dans les négociations de paix. Et moi, je trouve maintenant que c'est ça le plus souvent, avec ces différents dialogues, ces différents contacts, le gouvernement tombe dans ce que nous appelons le dilemme dans les négociations de paix. En d'autres termes, je veux dire, lorsqu'on va négocier avec ceux qui ont pris les armes, avec ceux qui se sont rebellés, avec ceux qui ont tué les gens, qu'est-ce qui doit venir avant? Est-ce la justice ou c'est la paix? En d'autres termes, est-ce qu'il faut dire, donc poursuivre la justice pour prétendre que la paix vienne après, ou il faut d'abord négocier, gratifier, comme on le fait là, pour prétendre conquérir la paix. Et donc, vous négociez, vous gratifiez, donc vous venez dans la logique selon laquelle peut-être il y a les gens, ce qu'on peut appeler les imitateurs aussi aveugles, les gens qui sont aussi dans le besoin et qui ne sont jamais, malgré leurs compétences, mais il trouve que vous trouverez un général qui n'a pas étudié. Et vous allez voir quelqu'un qui a étudié, qui pouvait être général, il continue à être capitaine, et ainsi de suite. Donc on revient à la logique selon laquelle, dans ce pays, pour devenir tel, il faut prendre des armes. C'est comme ça qu'on revient toujours à la question du départ. Mais souvent, c'est ça, les grands problèmes, c'est les dilemmes. Les dilemmes, qu'est-ce qui va venir avant? Est-ce que c'est la justice ou c'est la paix? Et j'ai écouté d'ailleurs dans l'interview de ce qui a été organisé à Ituri, un spécialiste qui a dit, qui a déclaré sur vos chaînes, c'est un l'interview d'avant-hier, qui l'a dit, il faut toujours, la justice et la paix, donc il n'y a pas de paix sans justice. Non, pas nécessairement, parce qu'à un certain moment, il faut savoir dans cette négociation, la justice et la paix s'appellent et se repoussent à un certain moment. Qu'est-ce que je veux dire? La justice et la paix s'appellent, donc c'est là qu'on me revient dans la logique, pas de justice sans paix, ou pas de paix sans justice. Mais ça se repousse à un certain moment, c'est comme nous disons là aujourd'hui. Et il y a les Bakatakatan qui sont sortis. Il y a des gens. Et on croit que le gouvernement va se présenter pour négocier. Et pour négocier, on va dire, qu'est-ce qu'il revendique, comme j'ai entendu les gens dire. Ce n'est pas mauvais d'écouter, parce que chez nous, dans notre langue, en Tchouba, on dit « Bwimpomboa Machu » ou « Bimboa Machu ». Donc, ce qui est important, ce qui est mal, ce qui est mauvais, c'est toujours d'écouter. Écouter n'est pas mauvais, écouter n'est pas aussi bon. Il faut écouter pour comprendre bien le problème, comprendre la question. Mais il ne faut pas que l'État se présente en position de faiblesse. Donc, quand ça arrive, vous commencez à gratifier. Donc, on va continuer toujours à retourner.
Mais est-ce que vous dites que l'État ne faut pas que l'État se présente en position de faiblesse? Mais quand on regarde aujourd'hui, des fois, l'avancée de rebelles, que ce soit en Ituri, sur terrain, ça met déjà l'État en difficulté. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines où le groupe armé Codeco est entré jusque dans la grande ville de Bounia. Après, ils ont été escortés dans des camions, ils sont rentrés quelque part. Mais est-ce que cela ne met pas l'État en difficulté, dans le sens où l'État aujourd'hui a des sérieux problèmes d'efficacité sur terrain pour contrer l'avancée des groupes armés? On voit ce qui se passe à Beni aujourd'hui, quand bien même il y a beaucoup d'avancées sur terrain, mais il y a quand même des problèmes, parce que le président l'a toujours dit que c'est une guerre asymétrique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, du côté militaire, essayer de revoir la stratégie pour éviter que l'État ne se présente encore en position de faiblesse devant les groupes armés pour finir par des dialogues et des négociations?
Oui, effectivement. Mais vous savez comment on a toujours défini l'intelligence, quoi? L'intelligence, ce n'est pas la reproduction exacte de quelque chose, de tout ça. L'intelligence, on dit, c'est l'adaptation aux situations nouvelles. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a affaire à des guerres asymétriques, comme vous le dites. Mais au grand mot, grand remède, dit-on. Mais s'il y a aujourd'hui, nous disons que l'État se présente, il y a des difficultés. Pourquoi l'État a des difficultés? Parce que l'État, on le définit comme étant un système. Un système, donc, c'est quelque chose qui, il y a des éléments liés les uns aux autres, de sorte que s'il y a un problème sur un élément, ça va créer un dysfonctionnement de tout un système. Pourquoi il y a le service de renseignement? Pourquoi il y a le service de sécurité? Pourquoi nous avons l'armée? Pourquoi nous avons même la population? Pourquoi nous avons la police, ainsi de suite? Mais si chacun jouait de rôle, si il y a ce problème-là, comme tout le monde a vraiment été étonné, ceux qui sont à Lubumbashi, comment expliquer que ces gens-là sont partis de là pour se retrouver à la place de Tchombe, Moïse Tchombe, donc sans être inquiétés? Donc il y a soit un problème de dysfonctionnement, soit un problème de complicité. Donc il y a déjà un problème de complicité, c'est comme je vous ai dit là, il faut, peut-être ceux qui se sont présentés là, ne sont que des marionnettes, ne sont que des boucs émissaires, que l'on utilise. Les vrais tireurs, les vrais combattants, ils sont quelque part, et ils font partie même du système de sécurité. Dans ce sens-là, on facilite à un certain moment l'opération est liée. Donc on ne peut pas dire que l'État se présente. Comment tout un État, avec tous les moyens dont il dispose, avec tous les différents services dont il dispose, il ne peut pas, on ne peut pas tolérer que dans une... Est-ce que ces gens-là, vous croyez que la fuite d'informations ne pouvait pas avoir lieu?
Et ça, c'est très, très, très important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edel Martin Kabuta Kapoua de la société civile. Nous revenons à vous, monsieur Jackson Aoussé. En parlant de ce qui s'est passé, par exemple, dans le Katanga, nous remontons, il y a quelques semaines, je le disais tout à l'heure, à Ituri, le groupe armé Codeco s'est retrouvé jusqu'à Bunia. Quelle a été la revendication principale pour être en ville et être escorté pour ramener? C'est-à-dire que quand on ramène un groupe des gens dans des camions, cela veut dire on sait là où ils vont se positionner automatiquement. Alors, mais pourquoi il y a tous ces problèmes de fois de manque de coordination, d'information? Et vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité d'inviter le ministre de la Défense. Mais à quel niveau se trouve exactement le problème?
Le problème, il est global. Le problème de la sécurité dans notre pays, il est très, très global. Moi, je pense pas. Il faut peut-être une émission spéciale pour voir la question de la sécurité, parce que ça relève aussi des plans de la sécurisation. Hein? Chaque pays doit avoir un plan de la sécurisation, et nous pensons que notre gouvernement a aussi un plan global de la sécurisation de son pays. Nous avons 45 territoires, nous avons autant de villes, nous avons autant de chefferies. On doit avoir une idée précise, n'est-ce pas, pour comment sécuriser du jour au jour, n'est-ce pas, c'est notre pays, l'intégrité de notre pays. Ça, c'est vraiment un débat important sur lequel nous devons revenir. D'ailleurs, ça tombe bien, nous sommes à une session budgétaire. Il va falloir que nous puissions aussi avoir en regardant, n'est-ce pas, sur l'enveloppe qu'on alloue, n'est-ce pas, au service de sécurité spécialement, parce que notre pays est en danger. La partie est, Lubumbashi, on venait d'écouter, Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi de suite, ça pose problème, il va falloir que nous puissions voir. Mais c'est aussi la question de la mobilisation des ressources, parce que le budget n'est qu'une prévision, il est aussi question de la réalisation. On réalise, le budget est réalisé à quel pourcentage, c'est aussi une autre question, un autre débat. Mais ici, par rapport à la question, ce qui se passe à Ituri, moi je pense que nous devons arriver à arrêter quand même l'hémorragie des morts. Les gens qui meurent là, c'est quand même de trop. Et c'est une population innocente, c'est une population civile, ce sont une population cultivataire, ce sont les gens qui vont au chat, c'est une population lambda, au fait, de la province de l'Ituri qui meurt, et ils meurent chaque jour. Donc l'État congolais doit faire tout, alors tous les moyens, pour arriver à arrêter d'abord le cycle de mort. Ça doit être une priorité, et ça ne doit pas se négocier. Vous aviez dit, est-ce que nous, à l'Assemblée nationale, parce que nous, à l'Assemblée nationale, on ne gère pas, c'est l'exécutif qui gère. La sécurité est gérée par l'exécutif, mais cet exécutif est répondant, hein, devant l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui représente effectivement la population. Nous sommes à cette session budgétaire. Moi, je pense que les initiatives parlementaires ne vont pas tarder, parce que même si le ministre de la Défense était venu, le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils sont déjà passés, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, pour donner des justifications par rapport à tout ça. Mais autant que la situation ne change pas, autant qu'il reste redevable.
Oui.
Il reste redevable à la représentation nationale. Donc voilà.
Et vous étiez sur terrain une fois. Quand vous regardez aujourd'hui la capacité opérationnelle de nos forces armées, pensez-vous qu'on ait des troupes suffisamment, d'ailleurs en termes de nombre, pour la couverture de la grande province d'Ituri?
Exact.
Est-ce qu'on peut avoir des militaires qui vont couvrir tous les villages? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'ils ont-ils suffisamment de moyens? Parce qu'on peut avoir la bonne volonté, mais si on n'a pas des hommes en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des zones qui sont affectées, c'est aussi un problème.
Cela rentre exactement dans le cadre de ma deuxième proposition, parce que moi j'ai donné trois axes de solutions: la déclaration de l'état d'urgence, l'évaluation des opérations militaires, la convocation d'une table ronde provinciale pour l'Ituri. C'est ça. Donc, ce que vous venez de poser comme question par rapport au nombre, par rapport aux moyens qu'ils ont, et tout, ça rentre effectivement dans ces cas-là, parce que nous constatons déjà, après la mise en place des secteurs opérationnels, nous avions deux groupes armés.
Déjà après,
ça quadruple, en fait. Alors il faut que nous puissions interroger notre capacité de riposter. C'est aussi ça, n'est-ce pas, la question. Et pour cette raison que nous disons, on doit évaluer, parce que ça ne relève pas à moi,
merci,
à ma qualité de député national, de dire que non, on a plus de nombres, on a moins de nombres, ça ne sera pas bon.
Il faut qu'on ait une évaluation.
Tout simplement, nous devons évaluer pour que nous puissions voir en homme, est-ce que c'est suffisant, parce que l'Ituri est une province de plus ou moins 65 000 km². Ce n'est pas quand même peu, c'est avec une population de 9 millions d'habitants. Il va falloir aussi, s'il y a une opération militaire, qu'on tienne compte, n'est-ce pas, de cette contrainte géographique, de cette contrainte démographique, de manière que s'il y a une opération, ce soit une opération au prorata, hein, donc une opération n'est-ce pas, qui est vraiment à la hauteur des menaces, parce que la menace, elle est importante. Il faut une opération militaire Merci. Aussi costaud.
Voilà, on retourne au standard avec Christian qui nous appelle de Kinshasa. Merci Christian d'être avec nous en ligne. Bonjour Christian.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute Christian.
Pierrot, merci de la parole accordée. Je crois que au regard de ce que nous avions traversé, il faut d'abord écarter l'idée du dialogue ou encore d'autres mesures qui risqueraient d'être des mesures fantaisistes. Je crois que pour cette situation ou question de l'insécurité, il faudrait d'ores et déjà commencer par l'identification des vraies personnes qui commettent ces actes d'atrocité et ensuite laisser la justice faire son travail. Les cas échéants, identifier d'abord, en fait, identifier ces gens, établir les responsabilités et les cas échéants, les sanctionner. De cette manière, nous pouvons s'attendre à aboutir à une paix durable. Mais si l'on pense que, voilà, il faut d'abord décréter un état d'urgence, mais Pierrot, nous venons, il y a seulement quelques temps ici, nous étions dans le temps d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement? Il faudrait pas que nous retombions dans les mêmes erreurs. En fait, nous prenons des mesures, mais qui ne reflecteront pas justement les attentes ou les actions qui nous attendons, qui peuvent justement venir après ce genre de mesures. Ce qu'il faudrait faire, c'est de laisser d'abord la justice faire son travail. Les bouts, on les connaît. Il y a un auditeur qui venait de le dire que ceux qui commettent des actes ne sont pas ceux-là qui sont responsables, les responsables sont ailleurs. Pourquoi ne pas mettre carrément la main sur les responsables, les sanctionner? Mais si nous pensons que nous devons toujours tourniquer autour du dialogue qui vont justement nous conduire à ce que vous venez de tout à l'heure de l'énumérer, l'amnistie, les gratifications et tout consort, mais nous allons toujours en fait maintenir notre partie Est comme étant le ventre mou de l'insécurité et nous serons toujours à la merci de toutes incursions militaires. J.R. Pierrot Lamé dit, l'État doit s'imposer comme nous avons une justice. Voilà aujourd'hui, par exemple, depuis un certain temps, on fait la traque contre ceux qui détournent. C'est vrai que le détournement n'a pas cessé d'exister, mais au moins il y a cette crainte. Les gens ont maintenant peur de la justice. Nous voulons maintenant une justice libre et indépendante qui doivent nécessairement penser sur cette action, poursuivre les auteurs, quel que soit leur titre et leur qualité, le poursuivre. Mais si nous voulons encore un état d'urgence, sans des mesures d'accompagnement, sans des propositions concrètes, j'y ai Pierre Lamé, laissez-moi vous dire que nous ferons du sur place et l'être du pays ne sera que à la merci de toutes sortes de tueries. Et il faut également le dire que l'insécurité aujourd'hui n'est pas qu'à l'est du pays, c'est dans l'ensemble du territoire. Ici, par exemple, à Kinshasa, il y a ce phénomène Kuluna. C'est aussi une question d'insécurité. Pourquoi vouloir seulement se pencher seulement à un coin ou renoncer ou abandonner d'autres coins? Il faut une mesure, je dirais, qui s'intéresse à l'ensemble du territoire, une stratégie qui va s'imposer. Et cette stratégie, c'est d'abord judiciaire et ensuite une stratégie militaire. Il faudrait remanier notre stratégie militaire. Pierre Lamé, je vous l'avais également soulevé. Il faudrait remanier notre stratégie militaire afin que nous ayons une armée forte et des services de sécurité qui seront vraiment à même afin de répondre aux des ratas de la population, Pierrot. Voilà un peu ce que je peux dire jusque-là, Pierrot Lamé.
Merci beaucoup, Christian. Vous estimez qu'il n'y a pas moyen de déclencher encore un autre état d'urgence vu la situation des COVID-19. Mais la question revient d'abord à la responsabilité de l'État. Simon, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Matadi, vous êtes de la société civile. Qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace pour résoudre la question de l'insécurité à l'Est globalement, mais aussi la situation qui est en train d'empirer dans la province du Touri? Simon, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de par le monde.
On vous écoute.
Nous pensons que je suis nettement convaincu que
toutes les tentatives menées au niveau interne de la nation, avec les gros moyens qui ont été dépensés et mis en jeu, des gros moyens qui pèsent à la République, mais en tout cas, on n'obtient pas les résultats escomptés face à cette guerre asymétrie, il faut appeler ça comme ça, s'il faut appeler ça rébellion ou l'appeler guerre proprement dite, nous pensons que ça n'a rien donné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que comme les commanditeurs ou les solutions internes imaginées savamment n'ont rien fait obtenir à la nation de, comme gain de cause, dès lors que l'instrumentalisation ou la machination sont des œuvres pensées des officines extérieures qui depuis longtemps, depuis l'époque coloniale, ont commencé à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Ainsi, mon plan de sortie consiste à ce que une diplomatie agissante doit être menée à partir de l'extérieur. Pourquoi l'extérieur? Parce que c'est de l'extérieur que viennent les financements des acteurs que nous trouvons sur le terrain. Donc les officines extérieures qui bénéficient des minéraux, tous ces avoirs, utilisent les Congolais ou les certains citoyens des pays limitrophes pour tuer les Congolais et extraire les minéraux qui leur profitent. Donc il va falloir mener une diplomatie agissante à partir de l'extérieur où se trouvent les financiers de cette entreprise odieuse, également les bénéficiaires directs des butins ravis de force au prix du sang qui coule, le sang des orphelins, des veufs et des veuves. Aujourd'hui, même les écoles sont détruites pour avoir des minéraux frauduleux. Interdire à partir de l'extérieur. Donc une diplomatie doit être menée au niveau des Nations Unies qu'on puisse interdire la vente et l'achat des minéraux qui proviennent frauduleusement de la République démocratique du Congo. Ceci, parce qu'ils sont capitalistes, ils visent des intérêts, ça va un peu freiner leurs intérêts, et comme il n'y a plus d'intérêt, il n'y aura plus l'action. Ça va un peu réduire le degré de nuisance sur le terrain, parce que ces gens-là qui sont instrumentalisés ne voudraient pas travailler au prix de rien. Donc c'est ce qu'il faudra faire, parce que quand vous voyez depuis 95 que ces manœuvres de l'insécurité de l'Est, tout ça a commencé, vous allez voir que rien ne va. Parce que à chaque fois qu'on arrête ou on fait ceci, on prend d'autres personnes pour continuer la même besogne. Mais si on stoppe à partir de l'extérieur, à partir des ventes et des achats, je pense que ça peut, on peut trouver une solution par rapport à cette guerre qui perdure. Et également cette guerre qui nous est arrivée. Il ne faut pas oublier que cette guerre est arrivée par des appétits politiques. Des gens qui voulaient remplacer les autres, leurs frères qui étaient au pouvoir. Ils ont utilisé ces affairistes d'officines extérieures qui, pendant l'avancée, achetaient de l'or et des diamants. Et ils ont eu le pouvoir, mais ils n'ont pas voulu lâcher l'entreprise affairiste. Donc moi, je pense que la solution, il faut plus frapper, mettre beaucoup plus de moyens de façon à l'extérieur qu'à l'interne. Sinon, nous allons commencer à réduire ou sinon à arrêter les gens et continuer la guerre parce que la cause vient de l'extérieur. Voilà un peu ma réflexion ou ma contribution auprès du président de la République qu'il voit un peu, qu'il essaye un peu de changer parce que au niveau interne, nous devons le dire vrai que nous avons échoué totalement. Maintenant, il faut aller aux instruments, ceux qui instrumentalisent, ceux qui font la machination de ça. Voilà un peu mon intervention par rapport à ça.
Merci beaucoup Simon de nous avoir donné tous ces éléments à partir de Matadi. Vous avez aussi évoqué la question de l'échec et de la complicité. Rappelons quand même à nos auditeurs qui sont nombreux à nous avoir écrit sur la page Facebook qu'on a des petites difficultés pour pouvoir vous joindre en ces moments. Alors vous pouvez rester patient. On a des petits soucis hein, pour joindre surtout nos auditeurs qui nous appellent de province. Nous revenons dans ce studio avec vous député national Jackson Aoussé. Vous avez suivi nos compatriotes. Je dégage quand même dans leur intervention, il y a les dialogues, il y a l'efficacité de l'armée, il y a la question des complicités. Et vous, vous avez répondu dans la question des complicités. On ne doit pas tenir compte de ça tellement que l'État doit pouvoir s'imposer. Mais rappelons quand même que la zone de l'Est, c'est depuis 2001, l'accalmie, on revient et on se rend compte qu'il y a une multiplicité de groupes armés. On parle de près de 70 groupes armés locaux au sud Kivu, autant dans la province de Nord Kivu. Alors parlons maintenant de l'implication internationale. Qu'est-ce qui doit être fait sur ça? On a vu le chef de l'État dans son discours à l'Assemblée générale souhaiter une grande implication de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle doit faire encore? Il y a la MONUSCO sur terrain.
Vous savez, nous sommes membres de plusieurs organisations internationales. Je parle de la MONUSCO, je parle de SADC, je parle de CEGEL, nous sommes membres de plusieurs organisations internationales. Ces organisations internationales, moi je n'ai pas beaucoup à demander d'eux. Vous savez, les domaines de respect, pour que les gens vous respectent, vous devez apprendre à vous respecter d'abord vous-même. On ne peut pas aller dans un consortium, on ne peut pas faire membre d'un groupe à partir du moment où soit tu n'as pas un plat, ou soit tu n'es pas capable de se défendre et de défendre tes intérêts. Moi, je pense que le domaine de relations internationales, est assis sur les intérêts. Nous, Congo, nous avons des intérêts. Nous avons notre intérêt pour appartenir à telle ou telle autre organisation internationale. Moi, je pense que nous devons défendre nos intérêts. Ici, c'est une question de la défense de nos intérêts. Voyez-vous, donc il y a des guerres qui tuent 100 personnes à travers le monde pour lesquelles le comité de sécurité des Nations Unies se réunit, n'est-ce pas? Parce que 10 personnes est mort hier à Yémen et tout, on convoque une réunion de comité de sécurité. Mais en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, on peut mourir 50 personnes par jour, on peut mourir 100 personnes par jour. Il n'y a même pas une réunion dans les quartiers. Mais même les chefs de quartier ne convoquent pas une réunion. Et vous voulez que la communauté internationale puisse nous faire quoi? Donc moi, je pense que la communauté internationale, l'efficacité, la promptitude, n'est-ce pas, donc l'engagement de la communauté internationale dépendra de notre capacité de défendre, n'est-ce pas, nos intérêts dans ces grands groupes. Ils ne peuvent pas nous prendre comme des grands élèves ou c'est à eux de nous proposer des pistes de solutions. C'est à nous de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Par exemple, aujourd'hui, avec la Nations Unies, avec la MONUSCO, est-ce que la mission de la MONUSCO doit continuer à rester cette mission d'observation de la population civile? Donc moi je ne passe pas, ça dépend de nous. Bientôt il va falloir qu'on va renouveler les mandats des Nations Unies.
Et d'ailleurs le chef de l'État a demandé qu'on puisse changer, qu'on place, qu'il y a la brigade d'intervention, il y a la question de la protection, il faut que ça soit renforcé, que ça soit un peu plus efficace que le renforcement de la protection des civils, mais aussi la brigade puisse avoir un peu de pouvoir plus efficace et des moyens qui lui permettent d'être plus réactif que ce qui se passe en ce moment.
Exactement, parce que 20 ans après 20 ans d'une grande présence, parce que la MONUSCO, c'est la plus grande mission onusienne à travers le monde. Ça s'ignore du point de vue des nombres, du point de vue de budget, ainsi de suite, mais 20 ans après, le bilan, il est là. Donc moi, je pense que nous, Congolais, nous devons nous interpeller. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne sommes pas les moindres des membres d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que je dis, c'est à nous de proposer à la communauté internationale ce qui doit être fait, pas le contraire. Parce qu'ici, nous sommes
en train
de vivre, ce sont les membres des communautés auxquelles nous sommes membres qui nous proposent des pistes de solutions à nos problèmes.
Voilà. Alors, on va écouter les tout derniers auditeurs de cette émission, que nous allons revenir à vous pour la conclusion. John, vous êtes à Isiro. Merci de nous avoir rejoints. Tout en rappelant à nos auditeurs qu'on a eu des petits soucis des lignes téléphoniques avec ceux qui sont à l'intérieur du pays. John, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, cher Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, John.
Oui, concernant la proposition de loi d'honorable, avec quand même cette idée-là de qu'on puisse quand même faire l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sécuritaire au niveau des grands nord et des sud aussi, mais compte tenu de ce qu'on est en train de vivre sur terre, il y a la complicité au niveau national, il y a la complicité au niveau local, même au niveau étranger, nous sommes envahis. Moi, je vois qu'avec des solutions pareilles, ça ne peut pas quand même aboutir. Moi, je proposerais plutôt que, avant quand même de faire ça, il faut que nous, Congolais, comme disait là, Sango, la conscience est quand même la conscience de la patrie. Il faut que chaque Congolais puisse se lever, dire que non, trop c'est trop. On m'a donné de l'argent, on a trahi le pays, qu'on puisse quand même voir que non, même si on me donne l'argent aujourd'hui, je mange aujourd'hui, mais le Congo restera toujours mon pays d'origine. À ce niveau-là, quand même, tous les Congolais puissent quand même avoir des concepts de patrie. Ajoutez à cela qu'il faut quand même pour sensibiliser aussi la population. Okay. Non, si vous vendez le Congo aujourd'hui, demain vous vous habiterez où? Avec ça aussi, ça peut quand même nous aider, quand même, à pousser, quand même, diminuer un peu. Mm-hmm. Avec cela, cher Pierrot, il faut quand même essayer d'ajouter quand même la dotation. Notre armée pousse à avoir quand même des dotations, des matériels sophistiqués. Détecter la situation là où il y a l'ennemi, avoir des moyens, tout ça. Si on met ça ensemble, mm-hmm. c'est quand même améliorer aussi les conditions de vie des militaires.
Voilà. Ça dit qu'ici, John, vous insistez sur la question de la conscience et arriver exactement à la question de la sécurisation, l'encadrement des militaires. Alors, nous allons revenir dans ce studio pour conclure cet échange avec vous, Monsieur Jacques Chonaoussé, député national, pour conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on doit dire pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays?
Effectivement, ma demande reste là, ma demande reste simpliste. Moi, je demande la sécurisation des 5 territoires qui composent, n'est-ce pas, la province de l'Ituri avec la ville de Bounia, et cela à travers les 46 chefferies qui composent cette province. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit nous accroupir. C'est un droit. La population qui vit dans la province de l'Ituri, la souffrance est importante. Nous voulons que d'ici la fin de l'année ici, que la population puisse commencer à retourner dans leur village. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à ville de Bounia, ce qui va vous accueillir, c'est la misère. C'est-à-dire, vous trouvez les camps de déplacés qui inondent la ville, vous trouvez les enfants non accompagnés qui abondent, n'est-ce pas, la ville, et c'est inacceptable. C'est même honteux pour nous, les officiels congolais. C'est pour cette raison que je dis, on doit sécuriser la province de l'Ituri. Je reste campé sur ma position. Je continue à demander au chef de l'État s'il faut isoler pour Merci. Sécuriser la province. Il faut mm-hmm. le faire. Bientôt, je vais présenter une feuille de route, un terme de référence pour la convocation d'une table ronde provinciale. Et nous ne manquerons pas, nous n'allons pas tarder, n'est-ce pas, à mettre en mouvement, n'est-ce pas, les moyens de contrôle. Mm-hmm. À l'égard des membres du gouvernement.
Merci beaucoup, Jacques Chonaoussé, député national élu du Rumu dans la province de l'Ituri. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci à vous tous pour votre fidélité à la fréquence de la paix. Merci à Jacques Bosenga qui a assuré la mise en onde et la réalisation de ce magazine que Pierrot et la Meiji vous a présenté. Fidèles auditeurs, merci et au revoir.